Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous. Non, je vous ai déjà dit bonjour, mais je vous redis bonjour si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous sur Sud Radio entre 11h et midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Emmanuel Jafflin, professeur de philosophie. Je rappelle vos deux livres, Petit cahier d'exercice de gentillesse, c'est aux éditions Jouvence, et Apologie de la punition.
C'est gentil, je vous proclame nouvelle gentille dame.
Voilà, voilà. Et Apologie de la punition. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort.
Bonjour,
et je
Valérie.
Je rappelle qu'hier, c'était la journée, l'anniversaire de
la journée mondiale contre la peine de mort.
Voilà, contre la peine de mort. Paul Vanier, orateur national de la France insoumise. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également enseignant. Et Anne-Claire Ruel, conseillère en stratégie d'opinion, spécialiste en communication politique et enseignante à l'Université Paris 13. Bonjour,
bonjour
à tous. Alors, ben, on va parler de nos retraites, on va parler de taxer, on va se demander s'il faut taxer davantage l'alcool. L'ONU qui envisage de remettre en cause l'interdiction de la burqa en France. La laïcité à la française est-elle trop dure? Nuit-elle à la liberté religieuse? C'est en tout cas ce qu'avance l'ONU. On peut aussi se poser la question, et je trouve qu'on l'a assez peu évoqué, de savoir comment Redouane Faïd avait pu échapper aux policiers en étant dissimulé, caché sous une burqa. La loi n'est que très partiellement appliquée en France. Bref, on va y revenir. 0826-300-300. Vos coups de gueule, vos coups de cœur. Paul Vanier, on commence avec vous.
Ben moi, c'est un coup de gueule, la destruction de la voie professionnelle au lycée. On sait à quel point elle est importante. Elle concerne, on l'oublie trop souvent, presque 25% des lycéens de ce pays. Et Jean-Michel Blanquer vient d'annoncer une contre-réforme qui va conduire notamment à la baisse drastique des heures d'enseignement de français, moins 15%, de mathématiques, moins 13%, de langue étrangère, LV1, LV2 qui disparaît totalement. La seconde professionnelle en tant que telle, elle aussi est attaquée. Hein. Jusqu'ici,
mais c'est-à-dire quoi ? On retire un peu les enseignements généraux pour se concentrer sur du
On abaisse les enseignements généraux, donc il y a la question de la culture générale qui se pose, mais en même temps, on déprofessionnalise cette voie, c'est-à-dire que jusqu'ici, son intérêt était qu'elle préparait à des métiers. Et il y avait par exemple en seconde 80 spécialités que les élèves pouvaient choisir. On va passer à une quinzaine. Donc vous voyez, il y a des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus confuses. Monsieur Blanquer nous parle d'insertion sur le marché du travail. Je ne crois pas qu'elle sera renforcée par cette contre-réforme. Alors que la voie professionnelle, à l'heure du défi climatique, hein, le GIEC, vous vous en rappelez, a rendu son rapport là il y a quelques jours, on sait l'urgence d'intervenir, eh bien, elle est décisive, elle est stratégique pour engager la transition énergétique, écologique de notre économie.
Il en dit quoi, le philosophe ?
Il est prof aussi, et je suis assez d'accord. Il faut préserver ces jeunes, et surtout le français, puisque déjà, dans les sections normales, le français chute. Alors, dans les sections pro, c'est clair que ça va être le cas. Je peux parler de mon cas ou vous
Oui, bien sûr. Non. Vos coups de cœur et vos coups de gueule sont sujets à discussion.
Je suis en colère. C'est un coup de gueule contre le mépris d'Emmanuel Macron. Vis-à-vis de l'Amérique latine. Il n'y est jamais allé depuis qu'il est président. Et il se trouve qu'au mois de mai, il y avait une semaine de l'Amérique latine. Ça veut dire qu'il y avait des présidents de la République qui venaient, qui avaient tous les ambassadeurs. Et il a eu la gentillesse de les inviter à l'Élysée. Vous savez ce qu'il a fait à l'Élysée ? Il est resté dans son bureau, il n'est pas allé les voir. Et là, je me dis que c'est quand même assez incroyable qu'il y ait un mépris de l'Amérique latine. Alors, il adore l'Amérique du Nord, il adore l'Amérique anglo-saxonne, il vient de chez Rothschild, mais il n'a pas compris que nous, on est beaucoup plus proche de l'Amérique latine que de Londres, que de Rotterdam, que de la Suède
parce
et de la Scandinavie.
Vous êtes un révolutionnaire.
Parce que la France est beaucoup appréciée dans ces pays-là.
Mais on
la
adoré.
France est une vraie référence, pas que dans les pays castristes, on va dire, mais même dans les pays beaucoup plus comme l'Uruguay, ils adorent la France.
Alors, si tu m'y autorises, je suis un ancien diplomate et j'étais en poste au Brésil. Et je me rappelle quand le premier ambassadeur est arrivé, que j'étais là-bas, le Quai d'Orsay lui a demandé de rendre 10 postes de directeur d'Alliance française dans les universités. Ça veut dire que ça régressait l'influence de la France auprès du désir francophile, à défaut d'être francophone, des Brésiliens. Et c'est pareil dans toute l'Amérique latine. Et finalement, Macron illustre ça.
Et dans l'ancien monde, ils aimaient bien l'Amérique latine parce que et François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient très proches de ces pays-là.
Je suis tout à fait d'accord.
La France est un pays latino-américain.
Mais c'est
que la Guyane, qui est une région
entre autres,
français,
mais les Brésiliens veulent la récupérer, ils la récupéreront, puisqu'on va l'abandonner. Mais je veux finir mon propos. Je veux finir mon propos pour dire que nous, on a juste 58 réacteurs nucléaires en France, qu'au Brésil, il n'y en a que deux, il n'y a qu'une centrale, en Argentine, il n'y en a qu'une. Et si, chers Français qui vous nous écoutez, il faut se barrer, c'est plutôt en Amérique latine qu'en Angleterre qu'il faudra aller.
Oui, Anne-Claire Ruel.
Et puis en plus, c'est l'idée de la francophonie. C'est vrai que c'est une langue qui est extrêmement parlée en Amérique de latine. Alors moi, j'habitais au Mexique
depuis
quelques temps, et c'était ici. C'est quand même, il y a un très fort attachement à la langue et à la langue, voilà, dans les lycées français. Alors moi, je reviens aux jeunes. Voilà, mon coup de cœur, c'est une initiative lancée par des youtubeurs, figurez-vous, avec en lien avec la marche climat qui aura lieu ce samedi 13 octobre. C'est le lancement du site ilestencoretemps.fr. Il est encore temps, c'est quoi? Ce sont des actions que vous pouvez mener, des petites batailles qui peuvent être gagnées au moyen d'actions ciblées. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde a envie de s'investir sur la cause écologique. Évidemment que tout le monde, il y a quelque temps, décriait les écolos en disant que c'était un peu des utopistes. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, avec l'arrivée des tempêtes, le réchauffement climatique et les effets directs sur notre environnement et sur notre société, qu'il va falloir agir. Et la pollution à Paris.
Partout, il n'y a pas qu'à Paris.
Voilà. Hein, évidemment, on ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment, par quel bout commencer. Et ce site internet est assez bien fichu. Pourquoi? Vous arrivez, il vous propose, il vous dit, est-ce que tu veux t'investir en solo? Est-ce que tu veux le faire en groupe? Où est-ce que tu habites pour géolocaliser les actions? Et puis, c'est assez simple. Ça joue sur quoi? Ça joue sur, un, l'idée que la jeunesse n'est pas fichue. Regardez, elle se mobilise et elle est encore active et elle est encore politisée. Et elle se bouge, en fait, pour mener des actions concrète. Deux, c'est une mobilisation de clavier aussi. C'est ce que Romain Badoir écrit, c'est un chercheur universitaire sur les mobilisations. C'est-à-dire que même derrière votre écran, vous pouvez aussi agir quotidiennement, vous renseigner et avoir un impact réel. Et trois, c'est vraiment rentrer dans la nouvelle ère du militantisme d'une certaine façon, qui est plus fluide, plus flexible et qui permet en fait à chacun de
s'impliquer et d'agir. Vous aviez vu cet article polémique, je crois que c'est l'AFP qui avait fait un graphique en expliquant les meilleurs moyens de préserver la planète.
Avec les enfants.
Et puis avec éviter de faire des enfants, c'était ce qui permettait de réduire l'empreinte carbone au maximum.
Éviter de faire des enfants dans les régions du monde où la natalité est extrêmement développée.
Oui, c'est ça. C'était ça l'explication. C'est vrai que ça a enflammé la toile.
Alors moi j'aimerais un peu rebondir sur Anne-Claire. Alors, je serais un peu plus pessimiste en revanche, c'est pas mon habitude, mais quand même, aujourd'hui c'est l'Electric Day qui est, je crois, organisé par EDF. Il y a le Salon Mondial de l'Automobile qui est un rendez-vous très important pour notre pays. Et en fait, moi j'aimerais pousser un coup de gueule parce que je me rappelle, il y a 10 ans, l'État a investi des dizaines de milliards d'euros pour soutenir le lancement par Renault des voitures électriques. À l'époque, c'était la Zoé et la Twizy, vous savez, ce petit jouet de petites voitures. Résultat, 12 ans après, on a 1,5% du parc automobile en voiture électrique. Seulement 1,5% du parc automobile. Et il y a encore des débats dans notre société sur est-ce que c'est utile, est-ce que ça va vraiment lutter contre le réchauffement climatique, est-ce que ça va pas plutôt, comme vous le disiez, les centrales nucléaires alimenter...
C'est le problème de la voiture électrique.
Voilà, etc., etc. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, je sais où est allé l'argent, qu'est-ce qu'on a fait de ces milliards, est-ce qu'on a subventionné des entreprises qui avaient besoin de... Mais franchement, 1,5% du parc automobile en voiture électrique, c'est pas ça qui va lutter contre le réchauffement climatique et qui va nous permettre de dire il est encore temps.
Oui. Moi, j'avais un coup de gueule qui rejoint un petit peu ce que vous disiez à propos de la francophonie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui démarre à Erevan, on le sait, le président de la République française y est, c'est le 17e sommet de la francophonie, et c'est la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushiki Uwambo, qui devrait succéder à Michel Jean. Le Rwanda, qui est un pays qui a quasiment abandonné le français, moi je m'interroge sur ce sommet de la francophonie, à quoi ça sert? Est-ce que tout ça n'est pas encore une fois une espèce de pour se donner bonne conscience? La francophonie est très très peu préservée partout dans le monde, en France où les mots anglais dominent.
Alors je veux pas renvoyer à mon site internet, parce qu'aujourd'hui on publie un article d'analyse sur pourquoi c'est cette dame rwandaise, qui est évidemment anglophone, plus que francophone, qui va présider la francophonie. Je suis assez d'accord, c'est surtout le sommet de l'hommage à Charles Aznavour, et ça s'arrête là.
Enfin bon, ça fait 17 ans que ça existe, envie de dire, Charles Aznavour, c'est un peu hasard de circonstance.
Mais effectivement, il y a un problème, c'est que la France a du mal à promouvoir le français dans le monde. Mmh. C'est ça la réalité. C'est que beaucoup de nos amis africains nous reprochent, les Canadiens nous le reprochent, de ne pas faire du français la priorité, une des grandes priorités de la diplomatie française. C'est ça la réalité. Et c'est vrai que ce n'est pas des sommets qui permettent, une fois tous les 2 ans, le prochain aura lieu en Tunisie dans 2 ans, de régler les problèmes. Après, moi je serais plus nuancé, parce que je trouve ça quand même assez astucieux qu'un pays qui était francophone. Le Rwanda était un pays francophone,
oui, bien sûr.
Qui est devenu anglophone. Soit que la francophonie soit présidée par un pays qui a eu cette évolution-là, et qui est en plus un pays qui est quand même très influent, qui a réussi sa conversion économique. Alors, c'est pas une démocratie, j'en conviens, mais c'est un pays qui est important en Afrique. Donc, c'est peut-être plus astucieux que d'avoir l'ancienne gouverneur général du Canada, qui n'a jamais fait de politique, en l'occurrence Michaël Jean, et qui n'avait absolument aucun poids face aux États qu'elle avait face à elle.
Moi, je pense aussi, sentiment, que c'est une immense hypocrisie. Paul Vanier.
Oui, puis c'est une ministre du clan Kagame, d'un dictateur qui est nommé à la tête de cette organisation, qui est stratégique pour la France. Il y a presque 300 millions de personnes qui parlent le français dans le monde. Le français est la quatrième langue la plus parlée de ce fait. Et c'est une langue qui va être de plus en plus parlée à l'avenir, notamment parce que la population de l'Afrique, on en parlait, va augmenter. On aura 700 millions de locuteurs dans quelques décennies. Et c'est une chance pour la France, et notamment pour la politique étrangère, la politique de coopération de la France pour les échanges scientifiques, pour les échanges universitaires, pour la diplomatie française, de défendre cette langue qui est aussi la langue officielle avec l'anglais aux Nations Unies et qui, Brexit oblige, pourrait devenir, il faudrait peut-être le demander, dans l'Union européenne, la seule, puisque les Anglais parlent.
Mais qui est aussi la langue de l'amour, qui est aussi une langue théorique, c'est pas comme l'anglais, qui est une langue très pragmatique. Et donc,
il y a Shakespeare, qui est
beaucoup de peuples dans le monde qui s'intéressent aussi à ce côté qu'on a pour l'esthétique, pour l'amour, pour le beau, ce qui n'est pas du tout le cas des Américains et des Anglais.
Enfin, on est les derniers, enfin, pas les derniers, pas exagérer, mais les avant-derniers, regardez les noms des émissions, Punchline, Newsroom, on ne fait aucun effort pour préserver. J'avais reçu, moi, le délégué général du Québec qui était venu avec des publicités françaises dans des journaux en me disant « Mais je tombe de ma chaise quand je vois que tout est en anglais. »
Effectivement, au Québec, on s'insurge un peu contre cet abandon de la langue française qu'on considère un peu comme une trahison, évidemment. C'est surtout du soft power. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est du soft
power. Encore un mot anglais.
Et encore un mot anglais, effectivement. Et je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron soit le plus grand défenseur de la francophonie, étant donné qu'on est quand même une start-up nation. Voilà. Qu'on veut du bottom-up et un retour au cluster. Moi, je suis pas sûre, dans toutes les tweets qu'il peut faire et l'utilisation abusive des termes anglais liés au marketing, qui est un peu cette novlangue aseptisée qui ne veut absolument rien dire. Je suis pas sûre qu'on soit vraiment en pointe sur ce sujet-là.
Moi, j'ai pas tout compris. Ce matin, il a dit, le président de la République, la francophonie doit être féministe. C'est deux mots qui on voit pas bien
je vois pas bien le rapport
mais c'est pas grave,
c'est une consigne de sa femme.
En tout cas, au Québec, ils disent, à la place de hashtag, ils disent mot dièse. Je trouve ça pas mal,
c'est très joli, c'est très joli.
Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler de nos retraites, de l'alcool, bref, beaucoup de sujets aujourd'hui. 0826 300 300, restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Retour dans le studio de Sud Radio avec vous en direct jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. On va parler de nos retraites. Hier, c'est Jean-Paul Delevoye, donc le haut commissaire en charge de ce dossier, qui a révélé les premiers grands arbitrages qui ont été décidés par le gouvernement après des mois de concertation. Donc le principe d'un système universel de retraite a été retenu. Donc la réforme va créer un système qui entrera en vigueur en 2025, mis en œuvre progressivement. Pardon, chaque euro cotisé donnera à tout le monde le même droit, c'est-à-dire en finir avec les régimes spéciaux. Paul Vanier.
Alors ça, c'est, on parle d'harmoniser. Pourquoi pas, à condition d'harmoniser par le haut, ce qui n'est pas le cas. Le régime par points, il faut l'expliquer.
Mais est-ce que c'est possible d'harmoniser par le
bien
haut?
Bien sûr, c'est une décision politique, mais je vais l'expliquer. Je vais vous donner d'ailleurs des mesures pour financer le régime de retraite. Mais de quoi s'agit-il? Le régime par points, vous accumulez de façon individuelle un certain nombre de points, mais vous ne connaissez pas d'avance la valeur du point. Donc première chose, vous êtes dans l'incapacité de savoir quel sera le niveau de votre pension quand vous serez à la retraite. Et pire, ce niveau de pension pourra varier car la valeur du point sera modifiée chaque année en fonction, par exemple, de l'espérance de vie. Si l'espérance de vie augmente, la valeur du point diminuera pour garantir l'équilibre et donc la retraite des Français baissera. C'est indigne de la part du gouvernement que de prendre à ceux qui seront les futurs retraités et de les pousser de ce fait vers des régimes par capitalisation de l'assurance privée pour que chacun, finalement,
chacun va se constituer et financer sa retraite.
Je voudrais juste dire une chose pour parler des solutions qui existent. Si dans ce pays, la loi était respectée et l'égalité salariale entre les femmes et les hommes une réalité, eh bien les cotisations générées par l'augmentation des salaires des femmes financerait notre régime de retraite. Il serait à l'équilibre et nous permettrait de voir sur le temps long avec sérénité les années à venir. Voilà, voilà une solution concrète plutôt que de venir finalement retirer à tous une partie de sa retraite parce que tout le monde sera perdant dans ce futur régime s'il advient.
Et il y a aussi dans les mesures la décision de ne plus prendre en compte les 25 meilleures années, mais l'ensemble de des années cotisées. Michel Taube.
J'aimerais que vous ayez raison. Non, j'aimerais que vos projections et vos prédictions soient vraies. Mais la réalité, c'est que il faut se le dire. Si tout le monde finit ses études à 30 ans. Commence à bosser à 30 ans et finit à 60 ou 62 ans pour ensuite avoir une espérance de vie jusqu'à 100 ans, comme c'est le cas dans certaines familles, on ne pourra pas financer les retraites, sauf à trouver des solutions qui sont soit la baisse des pensions de retraite, jusqu'à un tiers ou 20% du salaire qu'on avait sur l'ensemble de sa vie de travail, soit en multipliant, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'ils font dans beaucoup de pays, le cumul emploi-retraite, c'est-à-dire une retraite qui est évidemment pas à la hauteur de ce qu'aujourd'hui nos retraités peuvent toucher, mais qui est combinée avec un emploi. Et c'est pas une décision, c'est pas Macron, c'est pas Fillon, il y a 15 ans quand il a fait son plan retraite, c'est pas Juppé, c'est le sens de la démographie et de l'échelle
de la démographie.
Vous avez
dit quelque chose d'intéressant, si l'espérance de vie augmente, c'est notamment parce que nous travaillons moins. Regardez, dans certains pays, l'espérance de vie est en train de reculer. Aux États-Unis, par exemple, elle baisse. Parce qu'aux États-Unis, se produit ce que vous dites. Les personnes
les
travaillent
à
jusqu'à 80 ans, parfois davantage.
Je dis que ce que je dis
est travail et donc elles meurent plus jeunes. Donc il y a. Si nous vivons plus longtemps,
comment
c'est parce que nous vivons mieux.
Ouais, mais comment financer 40 ans de retraite
Je vous ai donné une proposition.
Comment financer 40 ans de retraite quand on a travaillé 25 ans, comme dans certaines professions? C'est ça. Voilà. Comment on fait?
Alors, Anne-Claire,
en tout cas, si on s'intéresse au sujet d'un point de vue communication, c'est un méta-risque d'opinion pour Emmanuel Macron. Ça, ouais. C'est politique, économique, social, sociétal. En fait, il reste sur sa promesse initiale, qui est la valorisation du travail et la mobilité sociale, avec un rétropédalage. Je ne sais pas si on regarde la séquence de manière plus longue. Vous vous souvenez du fameux faux off, c'est-à-dire une information lancée pour faire croire que c'est en privé, mais en fait, c'est distillé par les proches du président. Il avait dit en septembre, il faut arrêter d'emmerder les Français. Pourquoi? Il réagissait à une sortie de Christophe Castaner qui avait essayé de remettre en question les droits de succession. Le deuxième rétropédalage, c'était les 300 000 foyers de retraités qui ont été finalement exemptés contre 100 000 foyers initialement. Alors pourquoi ça va être explosif? Pourquoi? Parce que les retraités, c'est un tiers de l'électorat. Les plus de 60 ans représentent un tiers de l'électorat. Donc pour les municipales de 2020 qui s'annoncent, évidemment que pour Emmanuel Macron, c'est un sujet qui est extrêmement dangereux. D'autant plus que, et là c'est là qu'on voit toute l'ironie de la chose, c'est que Gérard Collomb, qui vient de quitter donc avec fracas le gouvernement, était le seul un peu à sensibiliser à la cause des retraités en disant qu'il fallait écouter les personnes âgées. Alors maintenant, il n'y a plus personne évidemment en face. Et si on ajoute à ça le cumul des réformes explosives comme la fiscalité, l'hôpital et les soins, qui aussi intéressent de près les personnes plus âgées et les seniors de notre société. Et si on ajoute aussi la loi bioéthique qui va être signée avec la PMA, la GPA, la fin de vie, où on a un électorat aussi qui est assez de nature traditionnelle, plutôt axé sur une défense de la religion, ça peut être explosif pour Emmanuel Macron et ça va être assez compliqué pour lui de se sortir de tout ça.
En même temps, on peut dire qu'il est courageux puisqu'il mène puisqu'on lui dénie l'action et le fait d'avancer. Alors je crois qu'on va se retrouver dans un instant. On aura Maïté en ligne et puis Emmanuel Jafflin qui nous dira ce qu'il en pense en tant que futur retraité. Voilà, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Et on parle de nos retraites avec Emmanuel Jafflin, professeur de philosophie, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Paul Vanier, orateur national de la France Insoumise, également enseignant, et Anne-Claire Ruel, conseillère en stratégie d'opinion, spécialiste en communication politique et enseignante à l'Université Paris 13. On a Maïté en ligne avec nous. Bonjour,
oui, bonjour
Maïté.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Donc, hier, Jean-Paul Delevoye a dévoilé un certain nombre de mesures qui sont envisagées pour la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes retraité?
Oui, je suis retraitée de la fonction publique. Oui, j'étais infirmière avant.
D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Et moi, je ne suis pas concernée, mais ce que je pense, c'est que partir à 62 ans pour les métiers pénibles, c'est bon. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes de santé à partir de 55 ans, hein, et jusqu'à 60 ans. Je ne vois pas une infirmière à 62 ans peut travailler dans un gros service. Hein.
Non.
Ouais, voilà.
Donc, alors, c'est ça, c'est qu'il y a une pénibilité du travail dans certaines.
Oui,
Alors, il touche pas à l'âge de la retraite, hein, a priori. Officiellement, il touche pas à l'âge de la retraite. Sauf que si vous partez à 62 ans, vous ne toucherez pas le taux plein. Donc,
une décote, pour partir à 63. Oui, moi, je suis partie à 55, hein, 55 ans. Hein.
Oui.
Voilà. Et puis, ça dépendra de la valeur du point aussi.
Mais c'est ça, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, vous êtes inquiète pour ce qui va suivre.
Oui, c'est pour la valeur du point surtout, moi.
Ouais.
Et je voudrais aussi que les députés, les sénateurs soient dans la même pareil comme tout le monde, quoi.
De gel à la même enseigne. Bah ça, c'est un petit peu ce que prévoit cette réforme, hein. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus la fin des régimes spéciaux. Donc ça, c'est plutôt, ça va plutôt dans ce sens-là. Mais c'est vrai. Merci d'avoir appelé Maïté. C'est vrai que quand on regarde ce qui a été hier dévoilé par Jean-Paul Delevoye, il y a dû en même temps, c'est-à-dire on touche pas à l'âge de la retraite, mais en même temps, si vous n'allez pas jusqu'au bout, on va vous faire une décote. Il y a la pension de réversion aussi, le maintien est acquis de la pension de réversion, mais elles obéiront à des règles nouvelles restant à définir. Donc ça veut dire qu'elles ne vont pas rester comme ça. Emmanuel Jafflin.
Oui, c'est intéressant ce que disait Maïté, et elle montre que nous ne sommes pas homogènes. Ce qui est encore plus intéressant dans la période actuelle, c'est qu'on n'a pas conscience que la retraite, ça n'a pas toujours existé, et que ça n'existera pas toujours. Il faut savoir qu'en Afrique, les gens, ils n'ont pas de retraite et ils bossent.
Ils n'ont pas de boulot non plus.
Et alors, si, ils ont du boulot. Si, elle est très dynamique, l'Afrique. Il y a beaucoup de pays qui ont des taux de croissance de 2 ou 3%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la retraite, ça va de pair avec l'abolition de la famille, avec la montée en puissance de l'individualisme. Donc, il faut qu'on soit un individu dès la naissance jusqu'à la mort et qu'on ait une retraite pour ça. Et historiquement, ça ne marchera pas. Il faut savoir que la première retraite, c'était les marins sous Louis XIV. Mais que vraiment, quand elle s'est instituée, généralisée de manière diverse et variés, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, aujourd'hui, les gens n'y pensent pas, mais il y a quand même 16 millions de retraités. Il y a 13,5 millions d'enfants qui ont moins de 18 ans. Vous voyez le déséquilibre ? C'est tout simplement pas jouable. Donc, la retraite va mourir, ça va peut-être prendre 150 ans ou 80 ans, mais c'est clair qu'elle est en voie de disparition. Et on bricole, et il y a des réformes tous les 3 ans, depuis 47. C'est formidable.
Et moi, j'aimerais ajouter, pour aller dans le même sens, c'est... Je vais peut-être être un peu provocateur avec
Mais je vais lire Vanier. L'opinion, alors.
C'est, avec Paul Vanier, Opinion internationale. Ah, pardon. L'opinion, c'est le quotidien libéral. Moi, c'est libéral, mais libéral
tocquevillien.
Voilà, et international. Non, il y a une chose, c'est que la réalité, c'est que très souvent, la retraite, c'est un naufrage pour les personnes qui partent à la retraite. Et que
par rapport à l'espérance pour Maïté qu'on a entendu tout à l'heure.
Non, mais bien sûr,
mais
c'est qu'il y a des personnes qui vivent très mal leur retraite et que c'est pas absurde. Non, mais que c'est pas absurde. C'est pas absurde d'avoir
mais
comme modèle
déjà
non pas partir le plus tôt
davantage.
Possible à la retraite,
ça existe déjà
de la vie, mais il y a quoi comme boulot pour les seniors
et retraite.
Comme Delevoye qui prépare le système justement de retraite, il cumule sa retraite avec ses
indemnités. Non mais qui vous connaissez beaucoup de seniors qui au chômage ou en pré-retraite arrivent à retrouver du boulot?
Bien sûr que non, mais en même temps, lorsqu'ils ont développé le statut d'auto-entrepreneur, il y a beaucoup de retraités qui ont combiné ça avec le statut d'auto-entrepreneur pour faire des petits boulots, des petites activités qu'ils avaient envie de développer, qui correspondaient à leur...
Envie ou
oui,
besoin.
Oui, il y en a, Valérie, bien sûr.
Quand vous dites que le chômage peut être un naufrage, oui, mais ça peut aussi être un soulagement pour beaucoup de gens.
Un enseignant retraité qui a envie de continuer à donner des cours...
Il peut déjà le faire.
Oui, et ben il le fera encore plus à l'avenir pour pouvoir garder un revenu.
Ça existe déjà.
Sang.
Je voudrais réagir sur ce que disait Antoine qui présentait la retraite comme finalement
Emmanuel. Antoine, c'est un chanteur.
Une forme d'individualisme. Je crois que c'est le contraire. Les retraites, ce sont des droits collectifs. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui cotisent pour ceux qui sont actuellement à la retraite. C'est un système de solidarité. Et c'est bien ça que M. Macron veut changer. Il veut en effet individualiser les régimes de retraite puisque chacun demain cotisera pour lui-même. Ce qui pose la question des pensions de réversion que Valérie, vous avez évoqué. Les pensions de réversion, point très important. Pourtant, aujourd'hui, 4 millions de personnes sont concernées, 90% sont des femmes. Ce sont les veuves qui touchent une partie de la pension de leur mari. Et d'ailleurs, pour beaucoup, c'est parfois la seule source de revenus ou une source de revenus indispensable. Sinon, c'est la bascule dans la pauvreté. Eh bien, dans ce système où chacun accumule des points pour lui-même, qui nous dit qu'il sera possible de les transférer à la veuve ou aux veuves. C'est ça la grande question. Mmh. Et on voit donc que le sort de 4 millions de personnes, là, est directement menacé par cette réforme.
On a une réaction de Benoît Péris, d'un auditeur, Benoît, monsieur, je ne sais pas son nom, voilà, il nous dit, votre intervenant raconte n'importe quoi, je crois que c'était vous, Paul Vanier, les jeunes finissent sur leurs études à 30 ans. Ah bon, une de mes filles vient de finir son master 2, elle n'a que 23 ans et elle a trouvé un boulot juste après dans sa branche et sans traverser la rue.
Ça n'était pas moi qui...
Alors c'est Michel Thaume, ça vous ressemble
coupable,
plutôt.
Voilà, c'est
ouais,
coupable.
On va pas, effectivement, on ne fait pas des études jusqu'à 30 ans avant de faire médecine.
Non, mais évidemment, mais ce n'est pas évident de trouver un boulot tout de suite après les études.
Bah, c'est sûr, si on fait psycho,
galèrent,
non.
Il y a des
jeunes
qui
galèrent.
Oui, mais il y en a beaucoup qui font psycho, malheureusement.
Bah oui, justement, mais quand on choisit le bon secteur et qu'on est bien orienté...
L'informatique et numérique.
Oui, mais ça n'est souvent pas le cas.
Allez, on va changer de sujet. On va parler de cette proposition qui est faite par des médecins spécialistes dans une lettre ouverte à la ministre de la Santé. 9 médecins spécialistes réclament donc une taxe plus importante sur les boissons alcoolisées et leur publicité. Et ces revenus supplémentaires pourraient permettre d'alimenter un fonds de lutte contre les addictions. Eux estiment que le vin, par exemple, n'est pas assez taxé. Qu'en pensez-vous? Et ils réclament un pictogramme d'interdiction pour les femmes enceintes. Que pensez-vous de tout cela, Emmanuel?
La prohibition des Américains, c'était en 1919.
C'est pas de la prohibition, c'est une taxe.
Mais on y va, c'est le chemin, c'est l'idée de croire qu'on peut maîtriser les gens en leur imposant des interdits.
De pouvoir financer les 120 milliards que coûtent chaque année les dégâts de l'alcool au système de santé publique.
Non, mais on pourrait faire autre chose, effectivement. Arrêter de rembourser ceux qui sont soumis aux effets de l'alcool et qu'eux prennent en charge eux-mêmes les réparations médicaux. Mais de là à interdire...
Écoutez, moi, dans une autre vie, j'ai été travailleur social et je peux vous dire que les seuls qui étaient malheureusement irrécupérables, c'était les personnes qui étaient tombées dans l'alcool.
Mais c'est vrai, il y a des gens très riches qui sont très alcooliques.
Mais bien
très
sûr,
drogués, exactement. Plein de choses.
Non, mais l'alcool tue beaucoup plus que les autres drogues.
Bien
c'est
sûr.
Une réalité.
Bon, bah donc...
Et que donc, du coup, j'entends cet appel des médecins comme étant, il faut mettre encore plus le focus sur le danger,
sur la prévention.
Boire un bon verre avec modération. Évidemment, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre joie de vivre, et on est tous dionysiens, je suis d'accord. Mais ceci dit, il faut voir la réalité, que l'alcool est cause d'énormes dégâts dans notre société.
Mais c'est une réalité. Mais dans toutes les sociétés, il y a toujours eu de la drogue, il y a toujours eu des excès. Ce qui est terrible, c'est ça.
Sauf qu'on n'a plus les moyens de les payer.
Laissez-moi finir ma phrase. Pourquoi vous voulez à ce point la sécurité des individus? Les individus vivent
ce
qu'ils veulent vivre.
Parce que ça coûte cher à la collectivité.
Alors ça, on peut le supprimer, je suis d'accord.
C'est
pas comme l'interdire comme l'ont fait les Américains en 1919. C'est comme obliger le casque quand on fait du vélo. C'est comme obliger la ceinture de sécurité en voiture. Tout ça, c'est une tutelle que l'État veut avoir sur l'individu. Parce qu'il nie l'individu. Si l'individu veut boire, veut faire du vélo sans casque et conduire sa voiture sans ceinture de sécurité, qu'on lui foute la paix.
C'est un peu contradictoire avec vos propos précédents sur la retraite et l'individualisation qui poussait justement à tout ça. Non, alors je rejoins ce qu'a dit Michel, c'est-à-dire que l'alcool, c'est la deuxième cause de cancer. C'est la première...
49 000 personnes
exactement.
En France qui meurent à cause de l'alcool.
C'est la première cause de mortalité chez les 15-30 ans tout de même, et c'est la première cause de démence précoce. C'est un problème qui est un problème sérieux. La question, c'est que effectivement, c'est une boisson qui est millénaire. Donc, comment voulez-vous juguler les effets désastreux de l'alcool sur une boisson qui est ancrée dans nos habitudes, qui est culturellement très importante, qui fait partie du patrimoine et puis finalement,
c'est un art de vivre.
Voilà, un art de vivre par rapport à ça. Mais c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on voit très bien en termes d'addictologie qu'il faut absolument développer ça. Je pense notamment à une association qui mérite aussi un coup de chapeau, c'est Addictel, qui est menée par Fatima de la Maison Neuve et Elsa Tacchini, qui s'intéresse notamment au sujet de l'alcoolémie chez les femmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont surtout des femmes qui sont assez...
Milieux favorisés.
Voilà, de milieux très favorisés. C'est pas forcément de l'alcool mondain avec des soirées, c'est des femmes qui rentrent et qui prennent un verre d'alcool, comme on prendrait un joint dans d'autres cas. Et c'est très important. Je reviens sur la comparaison avec la ceinture. C'est du même ordre. C'est-à-dire que vous avez quatre choses essentiel pour pouvoir intégrer un changement comportemental. Vous devez, un, avoir un portage au plus haut niveau. Là, on voit que, du coup, il est complètement défaillant. Deux, il n'y a pas de changement de comportement sans contrôle et sanctions, d'où les législations. Et c'est à chaque fois le principe législatif qui permet de le contrôle-sanction, en fait, qui le la peur.
Parce qu'on le voit, on le voit avec les cigarettes. L'augmentation du prix du tabac est directement corrélée à l'arrêt du tabac.
Et vous avez des chiffres directs. Après, vous pouvez monitorer ça en termes d'efficacité pour la santé.
Paul Vanier.
Pour moi, quand des médecins alertent, je les écoute avec attention. C'est une question de santé publique très importante. Vous avez rappelé les chiffres, la deuxième cause de cancer en France. Et je suis toujours attentif aussi aux mesures de prévention qu'on peut mettre en place. Parce que là, je trouve qu'on est plutôt à la fin du processus et que tout ça, c'est aussi, par exemple, des questions d'éducation dès l'école, dès le collège, dès le lycée. Il faudrait des interventions d'associations et de professionnels auprès des jeunes. Je note quand même une chose. Même si vous l'avez dit, la consommation d'alcool, elle n'est pas réservée à une catégorie sociale. Hein. Tout le monde boit dans notre société. Mais je note que cette proposition, elle vient après l'augmentation des taxes sur les jeux le tabac et qu'elle va aussi peser encore une fois plus lourdement que sur d'autres, sur les personnes les plus modestes qui peuvent parfois consommer de l'alcool par plaisir et dans le cadre de pratiques tout à fait raisonnées.
Mais là, l'idée, c'est d'augmenter les taxes parce qu'il y a quand même un décalage. Alors, ces médecins, clairement, pointent du doigt les lobbies également, puisqu'ils expliquent que la bière est 13 fois plus taxée que le vin et les spiritueux 62 fois plus. Donc il y a vraiment un lobby du vin aujourd'hui extrêmement puissant qui fait que le vin est très peu taxé en proportion des autres alcools. Eux voudraient que les mélanges type rosé pamplemousse, qui sont des boissons qui incitent les jeunes à boire, soient très lourdement taxés. Parce qu'il faut rappeler que dans le rapport de la ministre de la Santé, l'alcool est vraiment le grand absent du financement, de la contribution.
Moi, je voudrais aussi ajouter dans leur proposition, ce que je trouve très intéressant, c'est le petit logo qu'ils proposent de mettre pour les femmes enceintes, parce que quand même, on est dans un monde d'injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'on a des publicités pour l'alcool où il écrit en bas à consommer avec modération. C'est ce qu'ils veulent peut-être dire, c'est que c'est pas suffisant, c'est qu'il faut peut-être mettre comme les paquets de cigarettes, un logo beaucoup plus trash en fait, pour dire attention, en cas d'excès, il y a danger. Voilà. Et ça me paraît aussi intéressant.
On a Daniel en ligne avec nous. Daniel, bonjour.
Bah, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes que je partage.
Merci, hein, Daniel.
Mais dans quel sens? Vous êtes d'accord avec cette taxe ou pas?
Écoutez, ça ne règle pas tout. Oui, bien évidemment, mais ça ne règle pas tout. Je pense que le problème de fond, ça reste un problème d'éducation. On ne parle pas suffisamment des dommages de l'alcool. C'est quand même un tiers des accidents de la route. C'est 49 000 morts, vous l'avez dit, tout chiffre confondu. C'est une grande majorité des cancers. C'est également beaucoup d'affaires en justice. On l'oublie, la plupart des affaires qui vont en justice, que ce soit les violences conjugales, les délits routiers, les crimes et délits, les viols, ont souvent pour origine l'alcool. Donc c'est quand même une drogue, qu'on le veuille ou non, c'est une drogue dure. Et à partir du moment où les gens sont pris dans cette spirale, rien ne les arrête. Donc je pense que de toute façon, il faut que l'éducation soit beaucoup plus renforcée, il faut que les contrôles routiers également, qui sont quand même un bon tamis sur le comportement de chacun, tout le monde se déplace, soient beaucoup plus nombreux, et là où on sait bien qu'aujourd'hui ils se sont complètement effondrés au niveau de l'alcool, qu'on le veuille ou non, qu'on ne nous raconte pas d'histoire, on ne voit plus de contrôle de l'alcoolémie ou très peu, parce qu'il faut du personnel pour ça, il y en a de moins en moins pour ça. Donc voilà, et il faut, ben, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, après tout, le pictogramme qu'on met sur les paquets de cigarettes, mettez-le sur les bouteilles d'alcool, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit de la bière, du vin ou des alcools forts, de toute façon, dès l'instant où il y a un abus de consommation, on va directement au dommage.
Donc vous êtes pour une plus grande prévention. Emmanuel Jefflin.
Eh ben moi je vais refaire un petit cours de philosophie qui s'inspire du stoïcisme et qui distingue le bien et les indifférents. La santé, c'est un indifférent. On s'en fout de la santé. L'essentiel, c'est la sagesse. Et qu'une société régresse vers la santé montre qu'elle n'a pas de perspective. Et elle a tellement aucune perspective que c'est une culture.
C'est quoi cette philosophie?
C'est une culture en voie de disparition. C'est-à-dire la civilisation européenne, la civilisation occidentale, elle est en train de mourir parce qu'elle privilégie l'individu.
C'est quoi la sagesse?
Laissez-moi finir ma phrase. Pour que cet individu devienne un vieux, individu auquel je ne crois pas, Anne-Claire, et du coup on va essayer de le protéger pour qu'il vive le plus vieux possible, mais les femmes font plus d'enfants. Donc c'est réglé la question.
Mais là, j'ai une question.
Donc, la santé est un fantasme.
Si je peux me permettre une question. C'est quoi la sagesse d'une personne qui a un cancer généralisé à cause de l'alcoolisme dans lequel il est tombé. C'est quoi sa sagesse ?
On n'est jamais sûr que,
vous êtes indifférent,
que le cancer est une cause qu'on identifie.
Vous êtes indifférent à sa santé ?
Mais je ne suis pas du tout est-ce indifférent, qu'on peut être indifférent à sa santé. Celui qui conduit vite en voiture, mais le moralisme dans lequel on est...
Et encore une fois, je prône la joie...
Encore une fois, vous m'empêchez
de dire ma phrase. Pardon. Je prône la joie de boire un bon verre, parce que je ne peux pas imaginer qu'une si bonne chose, une si belle chose n'ait pas été,
mais dans
pour
tous
ceux
les pays
qui en
du
doutent,
monde, il y a des gens qui ont des cancers sans boire d'alcool. Je vous rappelle qu'il y a une religion qui interdit de boire de l'alcool et il y a aussi des gens qui ont des cancers. Donc arrêtez avec ça. Il y a des gens qui ont des cancers et qui vivent très bien et qui font peut-être un peu l'économie de la médecine.
Et dans cette même religion, certains pensent que c'est l'excès qui est interdit et non pas l'alcool.
Oui, l'excès de la médecine aussi.
On va se retrouver dans un instant. On va parler donc de l'ONU qui pourrait prochainement remettre en cause l'interdiction de la burqa dans l'espace public en France. Alors rassurez-vous d'une certaine manière, puisque l'ONU n'a évidemment aucun pouvoir de contrainte des États, mais on se demande s'ils n'ont pas autre chose à faire que de s'intéresser à cela. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff qui sera en direct du salon du Mondial de l'Automobile. Voilà, on ne dit pas salon, on dit Mondial de l'Automobile. Nous, on continue de débattre jusqu'à midi et je voulais vous faire réagir sur donc l'ONU qui envisage de remettre en cause l'interdiction de la burqa en France. Qu'en pensez-vous ? Donc, l'interdiction du port intégral dans l'espace public date de 2010, une loi qui n'est pas vraiment appliqué, si on en croit ce qui s'est passé il y a quelques jours avec l'arrestation de Redouane Faïd. Il y a quand même des gens, des femmes qui se baladent en France avec une burqa et qui ne sont pas arrêtées. Donc plusieurs questions, c'est de savoir ce que l'ONU, est-ce que l'ONU est dans son rôle en faisant cela. Et puis je rappelle que, bon, quelle que soit la décision de l'ONU, ce n'est en aucun cas une décision contraignante. Paul Vanier.
Oui, bon, l'ONU délibère, en effet, ça n'est pas contraignant, mais je crois que l'ONU a pris cette décision au nom d'une atteinte à la liberté religieuse. Et oui, je crois que de ce point de vue-là, il y a une incompréhension importante de ce qui a conduit à interdire la burqa, c'est-à-dire un voile intégral. On ne voit pas le visage de celui ou de celle plutôt qui la porte. Pourquoi a-t-on donc interdit ce port ? Pour deux raisons. L'atteinte d'abord à la dignité humaine. On considère en France qu'on ne peut pas être totalement dissimulé, comme on ne peut pas être d'ailleurs totalement nu. C'est finalement l'alternative, l'inverse, et les deux propositions ne sont pas reçues dans notre société. Et puis, il y a cette question de trouble à l'ordre public. C'est une question aussi de sécurité que d'empêcher, d'interdire la dissimulation du visage. Vous avez rappelé Redouane Faïd qui tentait d'échapper, en effet, aux policiers en se dissimulant sous une burqa. Donc, il s'agit de questions de dignité, de questions de sécurité, et non pas de questions religieuses. La laïcité, non, on en parle à tort et à travers, c'est la séparation des églises et de l'État. Là, nous sommes sur autre chose, hein. Trouble à l'ordre public et puis dignité de la personne.
C'est aussi pour des questions religieuses que la France a décidé d'interdire le port de la...
Quand on regarde la loi, c'est pour les raisons que j'ai indiquées.
Ouais. Michel Taube.
Moi, je voudrais m'adresser à quelqu'un, grâce à Sud Radio, qui s'appelle Olivier de Frouville, qui est un des 18 membres du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui sont sur le point d'interpeller et de montrer la France, de mettre la France à l'index, alors moralement évidemment, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est qu'en France, on a une tradition, on est très attaché à celle-ci, c'est la laïcité. Alors je suis d'accord que la laïcité, beaucoup de pays dans le monde ne la comprennent pas. En Angleterre, une femme policière peut être en uniforme de police et avoir un voile sur elle. C'est vrai. En Israël, par exemple, parce que c'est un Israélien qui préside aujourd'hui le Comité des droits de l'homme, je me rappelle qu'au lendemain de l'affaire du burkini sur les plages de France, il y avait sur une chaîne de télévision, il y avait une jeune femme israélienne en bikini à côté d'une femme voilée qui toutes deux ne comprenaient pas le débat qu'on avait en France sur le burkini. Je suis d'accord. Mais on est en France. En France, on est attaché à la laïcité. Et la laïcité est une condition de vivre ensemble. Et j'aimerais dire à Olivier de Frouville la chose suivante. C'est qu'il y a une décision de droit, déjà, qui justifie et qui solidifie le fait qu'en France, on ne veut pas de la burqa. C'est pas que la dignité. C'est pas que la sécurité et l'ordre public. C'est plusieurs décisions qui, elles, sont contraignantes, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a autorisé la France à être plus restrictif que d'autres pays en matière de liberté religieuse, au nom de vivre ensemble. Il y a plusieurs décisions là-dessus et je peux les lui envoyer. Donc moi, je l'encourage en tant que Français, attaché à notre principe de laïcité, de défendre ce point de vue parce qu'encore une fois, c'est notre tradition. En France, on tient à une neutralité du service public et dans l'espace public à l'interdiction de dissimuler son visage. C'est fondamental pour nous.
Et on parlait de la francophonie, bah c'est directement lié aussi à cette histoire de francophonie, parce que finalement, c'est la culture anglo-saxonne qui l'emporte dans ce principe. C'est-à-dire que c'est plus libéral sur le droit d'expression. Et ça ne correspond pas effectivement à notre logique et notre principe de laïcité qui est quand même assez fondamental nous concernant, nos valeurs républicaines, ce sur quoi on a un socle commun. Il y a aussi l'idée de contextualisation aussi. Évidemment que dans un cadre de multiplication des attentats et pour la sécurité, c'est vrai qu'on peut pas, on peut pas passer outre cela. Alors je rebondis sur une question qui a été posée à la pause par Emmanuel Jafflin qui s'est demandé si quelle était la différence entre une burqa et une niqab. Alors on a regardé ça à la pause et on va le donner pour nos auditeurs. Alors en fait une burqa c'est un voile intégral avec en plus un grillage devant. Donc le moins qu'on puisse dire c'est que effectivement en termes de dignité de la femme c'est assez représentatif. La niqab c'est juste les yeux, on voit juste les yeux. Le tchador, on voit le visage et le voile est noir. Et l'hijab, en fait, c'est un voile mais coloré. Voilà pour les différences.
Pour les précisions. Emmanuel Jafflin, sur cette affaire de l'ONU.
Ça donne à réfléchir, cette polémique autour de la femme voilée. Moi, je suis un vulgaire catho, mais je vais des fois dans les monastères et chez les sœurs. Elles sont voilées aussi, on les voit dans la rue.
On va faire ce débat-là.
Oui, mais si. Pourquoi vis-à-vis de l'islam on a cette réaction alors que vis-à-vis des mais catholiques,
je n'ai pas parlé de l'islam. J'ai parlé de toute forme de dissimulation intégrale du visage.
Mais je finis mon raisonnement. Ce qui est quand même intéressant dans cette polémique.
Je suis désolé aujourd'hui.
Non, c'est pas intéressant.
Les sœurs ne dissimulent pas tout leur visage.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à propos de ces femmes qui viennent de l'étranger, d'une autre religion, on réfléchisse entre l'âme et le corps. Pourquoi est-ce que d'un côté on est capable à montrer des femmes à poil, des sexes, et de l'autre côté, complètement voilées, on est choqué. Qu'est-ce qui est le plus choquant des deux? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un équilibre?
Je vous encourage à lire Kamel Daoud pour votre culture personnelle et pour voir ce qu'il explique justement sur... sur la peur qu'il peut y avoir par rapport à la femme, ce que représente la femme, l'atteinte aux hommes, en particulier dans l'islam. Il y a une explication assez claire.
Écoutez, une petite polémique sur les viols en ce moment que les femmes font, que ce soit dans le métro, etc. Moi, je suis allé dans un pays arabe à côté d'Abu Dhabi. On prend le métro pour les femmes, on est sorti, c'est-à-dire qu'il y a un compartiment pour les femmes.
C'est super, c'est génial.
Ben, elles sont tranquilles, elles ne se font pas toucher le cul
sûr,
comme en France.
C'est formidable,
bon,
mais
c'est parce
magnifique.
Que vous aimez peut-être ça, mais il y en a qui n'aiment pas.
Et puis la piscine aussi séparés, et puis voilà, c'est formidable.
Mais c'est pas si désagréable que ça, et moi je suis beaucoup plus vieux que vous, et j'ai connu l'école où il y avait que des garçons.
Non, mais le problème, c'est que vous êtes le nez collé sur ça, c'est un problème beaucoup plus.
C'est pas un nez collé, c'est un raisonnement, ça nous oblige à réfléchir à cet événement. On a quelque chose.
Emmanuel, on n'est pas à Abu Dhabi, on est en France, on est dans un pays de modernité où on croit à l'égalité entre les hommes et les femmes, et la possibilité pour un homme de voyager dans le même wagon qu'une femme sans que l'homme aille
tripoter.
Et des velléités de prédateurs sur elle. Non, c'est pas votre conception de l'homme.
Ah non, mais j'essaye juste de vous dire que ça nous donne à penser, ça nous fait réfléchir, qu'on a beaucoup d'excès dans notre société et que le mérite d'avoir
et
des femmes voilées.
Vous pensez pas que l'ONU a autre chose à faire pour rester correct que de s'intéresser avec l'Arabie Saoudite au comité justement qui siège au commissariat des droits de l'homme.
Je pense que vous n'aimez pas réfléchir et que vous pensez qu'il faut les bannir,
donc
je redis à nu.
Je pense que j'ai réfléchi sur la question. Je vous encourage à lire. Je vais vous donner des lectures pour réfléchir. Pardon, Michel.
L'Arabie Saoudite, dont je l'avais dit sur cette antenne il y a 15 jours,
il a permis aux femmes de conduire il n'y a pas longtemps.
Oui, super.
Oui, voilà, extraordinaire. Et dont on a dévoilé 120 000 documents qui prouvent qu'ils sont en train de tenter d'islamiser au sens radical du terme
nos sociétés
en France.
C'est une controverse qui est de plus en plus évidemment politique. Et en Europe, on voit qu'il y a aussi des mesures qui ont été prises contre la burqa en Belgique, en Autriche, au Danemark. Donc on voit qu'effectivement,
que des grands pays.
Oui. Et on l'a fait au nom du vivre ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble. Sans qu'il y ait un minimum de consensus. C'est pas possible. Et le consensus, c'est notamment la laïcité et le respect d'autrui.
Allez, on va aller retrouver André Berkoff, qui est au Mondial de l'Auto. Cher André, vous avez trouvé votre
Bonjour.
Voiture.
Oui, Valérie, écoutez, j'ai choisi mon dieu de buggy et mon quad. Fabuleux, fabuleux.
De quoi allez-vous parler?
J'arriverai à Sud Radio en quad. Alors, je vais parler, évidemment, de quelque chose qui qui a occupé 40 personnes à l'Assemblée nationale, qui est la loi sur les fake news. Et oui, elle avait été rejetée par le Sénat et ça y est, elle est passée à l'Assemblée nationale. Ça y est, nous allons être sous les fourches caudines du soi-disant fake news. C'est le fait du jour. On va en parler longuement, Valérie.
Merci André et on vous retrouve donc tout à l'heure après les infos. Merci à tous les quatre. On se retrouve nous demain à 10h.